Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 14 août 2024. Genève accueille des discussions parrainées par les États-Unis sur la guerre au Soudan, sans la présence de l'armée soudanaise, l'un des protagonistes. Au Kenya, deux missionnaires sud-coréens ont été enlevés dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Éthiopie. Côte d'Ivoire, Amnesty International demande l'arrêt immédiat d'expulsion forcée d'habitants à Abidjan.
Au-delà de ça, ces personnes ont été dégagées sans aucun avertissement. C'était dormait. Des élèves étaient en classe et des écoles ont été détruites. Des enfants se retrouvent sans d'autres établissements. Rien n'était prévu au préalable. Il y a toute une population qui est dans le désordre total.
Hervé Delmas Coco, directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire, nous en dira plus dans la partie magazine. L'OMS tient une réunion d'urgence sur le Mpox qui se propage rapidement en Afrique. Proche-Orient, les discussions sur une trêve à Gaza se tiennent demain, jeudi à Doha. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont lancé à Genève des discussions sur la guerre au Soudan, malgré l'absence de l'armée soudanaise à la table des négociations. C'est pour parler visant à mettre fin, à un conflit qui ravage le pays depuis avril 2023. Nani Talani.
Discussions ont commencé et il n'y a pas de changement quant à la non-participation de l'armée soudanaise, a indiqué l'ambassade américaine à Genève. L'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, a affirmé qu'il est grand temps de faire taire les armes. Ces pourparlers visent à parvenir à une cessation de la violence à l'échelle du pays, permettre l'accès de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin et mettre en place un mécanisme solide de contrôle et de vérification afin de garantir la mise en œuvre de tout accord, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De précédents cycles de négociations à Jeddah en Arabie Saoudite ont échoué et Washington a invité l'armée et les paramilitaires à participer à des pourparlers en Suisse. Les FSR ont accepté l'invitation, mais l'armée a laissé entendre qu'elle ne se rendrait pas en Suisse. L'armée soudanaise conteste la présence des Émirats arabes unis, mais Washington estime que les Émirats arabes unis pourraient, avec l'Égypte, être garant d'un éventuel accord, considérant ces discussions en Suisse comme une extension des pourparlers de Jeddah.
Le Soudan du Sud voisin étudie, lui, la faisabilité des élections prévues en décembre, a annoncé la présidence après des entretiens entre le chef de l'État, Salva Kiir, et des dirigeants des partis politiques, prévus dans le cadre d'un accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une guerre civile meurtrière entre les rivaux, Salva Kiir et Riek Machar. Elles ont déjà été reportées à plusieurs reprises. Dans le nord du Kenya, 8 personnes ont été abattues dans une attaque lundi soir, a indiqué la police locale. Dans un autre incident, des hommes armés ont enlevé 2 missionnaires sud-coréens près de la frontière avec l'Éthiopie. Nathalie Barge.
Selon un rapport de la police, des hommes armés ont abattu 8 Kenyans et brûlé leur corps à côté du camion dans lequel ils circulaient à environ 100 km à l'ouest de Moyale. Cette ville de l'extrême sud de la région de l'Oromia en Éthiopie déborde légèrement sur la frontière avec le Kenya. Dans un autre incident, 2 Sud-Coréens, un homme et sa belle-mère, ont été enlevés à leur domicile dans le village d'Oda lundi vers 21h selon la police du comté de Marsabit. Le gouverneur du comté, Mahmoud Ali, a déclaré dans un communiqué que ce sont 2 missionnaires. Le signal du téléphone portable de l'homme a été tracé pour la dernière fois jusqu'à la frontière avec l'Éthiopie, a précisé le commissaire adjoint David Sarouni. Les efforts pour le localiser ont été vains puisque le téléphone a été éteint, a-t-il ajouté. La porte-parole de la police nationale, Résila Onyango, a dit ne pas pouvoir fournir plus de détails. Les zones frontalières entre le Kenya et l'Éthiopie regorgent d'armes et subissent de fréquents raids de groupes armés. L'année dernière, le gouvernement a lancé une opération pour désarmer les bandits locaux et rétablir l'ordre dans la région.
Le bilan de l'effondrement samedi d'une décharge dans la capitale ougandaise, Kampala, est monté à 26 morts et 39 disparus, a annoncé aujourd'hui la police. Un précédent bilan faisait état de 25 morts. La décharge de Kitizi, un site de 14 hectares situé dans un quartier du nord de la capitale, s'est effondré samedi à la suite de fortes pluies. Le gouvernement rwandais a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec l'entreprise américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires, a annoncé l'autorité de l'énergie atomique rwandaise. L'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer d'un programme nucléaire civil avec deux réacteurs en service depuis plus de 30 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé réunit ce mercredi son comité d'urgence sur le Mpox. L'agence onusienne veut évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas en Afrique. Mohamed Oumfa.
L'apparition l'an dernier du Cledaib et sa propagation rapide en RDC, qui semble se transmettre principalement par le biais des réseaux sexuels, et sa détection dans les pays voisins de la RDC sont particulièrement préoccupantes et constituent l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de convoquer ce comité d'urgence, a déclaré le chef de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la réunion. Mais nous ne faisons pas face à une seule épidémie et à un seul clade. Nous faisons face à plusieurs épidémies avec différents clades dans différents pays, avec différents modes de transmission et différents niveaux de risque, a-t-il poursuivi. Plus de 38 000 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour plus de 1 400 décès, avec une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à l'année précédente selon des données publiées la semaine dernière par l'agence de santé Africa CDC. L'urgence de santé publique de portée internationale est la plus haute alerte que l'OMS peut déclencher. C'est le chef de l'OMS qui peut la lancer sur les conseils d'un comité ad hoc d'experts.
Les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza vont se dérouler demain au Qatar, alors que la participation du Hamas reste incertaine. Davantage avec Alexandrine Oulignon.
Israël a annoncé que ses négociateurs vont participer à ces nouveaux pourparlers auxquels ont appelé les pays médiateurs. Un cadre du Hamas a affirmé mercredi que le mouvement continue ses consultations avec les médiateurs. La première étape de ce plan, annoncée le 31 mai par Joe Biden, prévoit une trêve de 6 semaines, accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. « Il n'y a plus de temps à perdre pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza », a déclaré un émissaire du président américain à Beyrouth. Selon Amos Rothstein, l'accord devrait également permettre une résolution diplomatique au Liban pour empêcher le déclenchement d'une guerre généralisée. Le président Biden a estimé mardi qu'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre Israël. Le Hezbollah affirme qu'il arrêtera les hostilités lorsqu'un cessez-le-feu entrera en vigueur à Gaza.
L'Ukraine poursuit ce mercredi son avancée dans la région russe de Koursk, selon le président Volodymyr Zelensky, Moscou ayant pour sa part à nouveau annoncé avoir repoussé des attaques ukrainiennes en profondeur. Depuis le 6 août, les forces de Kiev se sont engouffrées dans la région de Koursk frontalière de l'Ukraine, prenant les troupes du Kremlin au dépourvu et réalisant la plus grande incursion d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un citoyen américain a été arrêté à Moscou, accusé de violence envers les forces de l'ordre, a indiqué aujourd'hui le comité d'enquête russe, plus de 2 semaines après un échange de prisonniers majeurs entre Moscou et Washington. Selon les enquêteurs, cet homme, qui n'a pas été identifié, a été conduit à un commissariat de police de la capitale russe en raison d'actes de vandalisme. Ce citoyen américain risque jusqu'à 5 ans de prison, selon les agences russes. Cet incident intervient alors que Washington accuse Moscou de viser spécifiquement les citoyens américains en Russie pour s'en servir de monnaie d'échange contre des Russes détenus en Occident. En Afghanistan, déterminés à garder le cap de la loi islamique, les talibans ont célébré ce mercredi le 3e anniversaire de leur reconquête de l'Afghanistan avec un défilé militaire dans une ancienne base américaine et des festivités et concerts de klaxons à Kaboul. Et puis la justice thaïlandaise a destitué ce mercredi le premier ministre Srettha Travisin, mis en cause pour avoir nommé un ministre condamné pour corruption dans un nouvel épisode d'instabilité politique dont le royaume est coutumier. Le départ du dirigeant, moins d'un an après sa nomination, intervient dans un contexte de stagnation économique et d'inquiétude sur l'état de la démocratie. Les députés se réuniront vendredi pour lui trouver un successeur. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Jacques Aristide.
Le Botswana, premier producteur mondial de diamants en termes de valeur, compte renégocier son projet d'achat d'une participation dans le diamantaire belge HB Antwerp afin de doubler la taille de son actionnariat sans coût supplémentaire après le ralentissement du marché du diamant. C'est le ministre des Mines, Lefoko Moagi, qui l'a révélé au Parlement botswanais mardi. L'économie du pays a été touchée de manière disproportionnée par la baisse de la demande de diamants provoquée par le ralentissement économique mondial. Une compagnie immobilière contrôlée par l'Arabie Saoudite envisage d'inaugurer au début de l'année prochaine, dans la nouvelle capitale égyptienne, un gratte-ciel de 50 étages au coût onéreux $1 milliard. Cette tour de bureau devrait être la première du genre à être alimentée par de l'hydrogène propre, produit à partir d'énergie renouvelable et qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle. Il s'agit d'un pari de Magnum Properties, une filiale du groupe industriel saoudien Wahhabi Holding. L'inflation aux États-Unis a poursuivi son ralentissement au mois de juillet à 2,9% sur un an contre 3% le mois précédent. Les prix connaissant cependant une légère réaccélération sur un mois à 0,2%. En ligne toutefois avec les attentes, d'après les dernières données publiées ce mercredi, il s'agit du niveau le plus faible sur un an atteint par l'inflation aux États-Unis depuis mars 2021.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue 1 professionnelle du Mali, coup d'envoi imminent pour la saison 2024-2025.
La saison de football 2024-2025 marquera le coup d'envoi de la Ligue 1 de football professionnel au Mali. Le cahier des charges est désormais disponible depuis le 25 juillet 2024. Fixe les conditions de cette nouvelle ère du football malien. Davantage avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Le cahier des charges comprend 6 titres avec des dispositions pour chaque titre. Par exemple, au niveau du titre 2, il y a les dispositions techniques. Mohamed Soumaré est membre de la commission ad hoc de la Ligue professionnelle mise en place par la fédération.
Les dispositions techniques parlent en général du niveau des entraîneurs. Il a été prévu que les entraîneurs doivent disposer d'un diplôme A, B ou C de la CAF ou tout autre diplôme reconnu équivalent par la direction technique nationale.
Des dispositions dites matérielles font partie des conditions.
Il faut disposer d'un stade fonctionnel doté d'un terrain réglementaire gazonné, stabilisé ou synthétique et disposer d'un siège avec une adresse correcte et vérifiée.
Les dispositions financières occupent à elles aussi une place prépondérante. Il s'agit pour le club de disposer d'un compte bancaire et engager un comptable ou travailler avec un cabinet comptable agréé afin de tenir une comptabilité régulière et bancariser les salariés. C'est ce qui justifie justement au titre 3 des obligations des clubs participants au championnat professionnel vis-à-vis principalement des joueurs sans lesquels il n'y a pas de football. Mohamed Soumaré.
On va parler d'une liste de 18 joueurs au moins et de 30 joueurs au plus sous contrat avec une copie de leur inscription à la sécurité sociale.
Pour le général Brahima Diabaté, président de la commission ad hoc, il s'agit d'un basculement des 14 clubs concernés en ligue professionnelle, sans quoi ils remplissent presque déjà les critères.
Le championnat que nous jouons aujourd'hui, c'est parce que nous avons seulement le mot amateur collé dessus. Sinon, ceux qui jouent les championnats professionnels ne sont pas tous au-dessus de nos clubs qui sont amateurs. Et puis, il y a beaucoup de clubs maliens qui sont normalement amateurs sur papier, mais en réalité, ils fonctionnent comme des clubs professionnels. Il y a beaucoup de clubs maliens qui ont des joueurs salariés, qui ont des entraîneurs sous contrat.
Exigence de la CAF depuis des années, le football malien est obligé de se conformer pour ne pas évoluer en vase clos. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Eduardo Camavinga indisponible pour plusieurs semaines.
Touché à l'entraînement mardi, le milieu de terrain français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche et devrait être indisponible pendant plusieurs semaines, a annoncé le club madrilène dans un communiqué. Madrid ne précise pas la durée de l'absence de son joueur, même si la presse espagnole l'évalue entre 6 et 7 semaines. L'international français devrait ainsi marquer le début de saison avec le Real, ainsi que la première fenêtre de Ligue des Nations avec les Bleus les 6 et 9 septembre.
Page de sport VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les autorités mènent depuis janvier une nouvelle campagne de déguerpissement dans les quartiers précaires pour réduire les impacts des inondations et des glissements de terrain qui tuent des dizaines de personnes chaque année. Amnesty International demande l'arrêt immédiat de ces opérations et exhorte le gouvernement à indemniser les victimes. L'ONG dénonce l'usage excessif de la force, soulignant que des milliers d'habitants ont été forcés de quitter leur domicile. Nani Talani a joint à Abidjan Hervé Delmas Kokou, directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire.
Ce que nous dénonçons vraiment dans ce communiqué, c'est cette absence de protection de la population par l'État de Côte d'Ivoire. On voit que l'État de Côte d'Ivoire a manqué à ses obligations, découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'ils ont ratifié. Au-delà de ça, ces personnes ont été déguerpies sans aucun avertissement. C'était dormi. Des élèves étaient en classe et des écoles ont été détruites. Des enfants se retrouvent sans d'autres établissements. Rien n'était prévu au préalable. Il y a toute une population qui est dans le désarroi total.
Que dire des justifications du gouvernement ivoirien qui affirme que ces expulsions servent à limiter les impacts des glissements de terrain et des éboulements qui, chaque année, causent des dizaines de milliers de morts?
Oui, nous ne disons pas le contraire, mais au préalable, vous aurez dû quand même informer ces populations-là. Consulter d'abord ces populations, les informer au préalable des notifications. Mais malheureusement, ces populations n'ont pas été prises en compte. Le gouvernement n'a pas effectué un recensement. Ils ne savent pas combien de personnes il y a dans ces quartiers qui disent qu'il fallait des répits. Nous sommes dans ce désarroi parce que c'est une fois les populations expulsées et que des efforts maintenant sont faits pour les comptabiliser, des efforts sont faits pour voir où les reloger ou même les dédommager, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent.
Pourtant, le gouvernement a annoncé des mesures d'aide au relogement et à l'indemnisation.
Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des JDSCO 1. Une partie des personnes ont été indemnisées à raison de 250 000 francs CFA. Tout le processus devait être mis en place par la primature, par le cabinet du Premier ministre. Nous avons adressé un courrier, une demande d'audience à la primature, n'a pas eu de suite. Et même le communiqué sur lequel nous communiquons, l'ont envoyé à la primature depuis le mois de juillet jusqu'à la date du 5 août, n'ont pas eu de réponse.
Quelle est l'étendue des conséquences de ces expulsions?
Les conséquences sont énormes parce que nous avons des milliers de personnes dispersées dans toute la ville d'Abidjan, peut-être dans toute la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas relogées, qui ne savent pas où aller. Des milliers d'élèves qui ont perdu l'année scolaire parce qu'une école a été détruite en plein cours, en pleine année scolaire. D'autres ont arrêté des études. Une école coranique a été détruite au Nouveau-Banco. Il y a au moins 500 élèves qui ont perdu une année entière. Et vu les conditions de vie des personnes qui vivaient dans ces quartiers, c'est des personnes vulnérables, des personnes pauvres, nous sommes plus ou moins certains que beaucoup, beaucoup d'enfants ne retrouveront plus jamais le chemin de l'école.
Que demandez-vous aux autorités ivoiriennes?
Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'indemniser ces personnes, de relocaliser si possible ces personnes, d'indemniser ces fermiers, plus de 133 fermiers qui ont vu tout leur bétail partir en fumée, détruit totalement. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qui se proclame toujours comme un État de droit, de respecter le contenu de ces tests-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recenser la population, donner un temps suffisant pour pouvoir déguerpir, les indemniser si possible. Mais aucun de ces dispositions n'a été pris en charge. Si ce n'est pas possible de respecter ces tests, autant ne pas effectuer les expulsions forcées.
Hervé Delmas Kokou, directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire. La crise anglophone et la situation dans l'extrême nord du Cameroun continuent d'alimenter l'actualité. Les efforts en vue de ramener la paix dans les régions anglophones et finis avec les attaques des extrémistes de Boko Haram ont été parmi les questions évoquées dans une interview que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis a accordée à la Voix de l'Amérique. Henri Etundi Esomba est au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Il y a une structure qui a été mise en place pour répondre aux attentes des manifestants qui étaient à l'origine c'était une manifestation un peu corporatiste, les avocats et les enseignants. Et puis, à la faveur des négociations tendues du dialogue, s'est élargi. Donc, on a apporté des réponses immédiates aux premières revendications de ces groupes corporatistes. La question plus large aujourd'hui a été pour le gouvernement, plutôt que de se cantonner à régler des questions sectorielles, il fallait prendre l'ensemble des questions qui concernent ces deux régions et créer un cadre qui permette donc d'en discuter et de mettre en place des solutions adaptées.
Par rapport d'ailleurs à cela, parce que le président a initié déjà tout un cadre pour résoudre la crise, encore la situation dans l'extrême nord du Cameroun qui continue à subir les attaques des extrémistes de Boko Haram. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Donc, vous savez, ici, c'est un vrai cas typique qui doit amener à réfléchir. Vous savez que cette guerre, nous ne l'avons pas voulu. Nous ne l'avons ni voulu ni provoqué. Nous subissons de façon collatérale les conséquences d'un conflit interne au Nigeria. Mais la proximité géographique de notre pays avec ce grand pays voisin a fait qu'il y a des débordements. Donc je pense qu'il y a là aussi des choses qui ont été faites. Parce que la première des choses, c'est que le Cameroun a défendu son intégrité territoriale. Quel que soit ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre du territoire national qui soit sous le contrôle de ces forces-là. Il y a des incursions pour venir poser des actes de violence. Nous avons renforcé la sécurité dans ces régions. Malheureusement, même sur ce plan-là, au plan sécuritaire, il est difficile de placer des membres des forces de l'ordre à chaque centimètre.
Henri Etoundi Esomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récemment lancé le très attendu Fonds nigérian de prêt à l'éducation, en soulignant l'importance de l'éducation en tant qu'outil vital dans la lutte contre la pauvreté et dans la réalisation du développement national. Jusqu'à présent, plus de 110 000 demandes de prêts ont été reçues. Quel est l'impact de ces prêts sur les études au Nigeria? Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le jour du lancement de ce programme de prêts étudiants, le président Bola Ahmed Tinubu a affirmé qu'il croit que l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté dans toute société.
Without education, there is no vision.
Sans éducation, il n'y a pas de vision.
Without education, there is no development.
Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans éducation, on ne pouvait même pas vaincre la pauvreté, l'insécurité et les abus dans une société.
Pour les autorités fédérales, cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre les obstacles financiers à l'éducation et dans l'autonomisation des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs aspirations académiques. À l'université d'Abuja, les étudiants sont divisés sur l'initiative et beaucoup de questions restent sans réponse. Certains pensent que les conditions sont trop dures et empêchent les enfants des familles pauvres de bénéficier de ce prêt.
La vraie question maintenant, est-ce que ce programme est pratique? Quelle est son efficacité? Dans quelle mesure cela peut-il aider un étudiant? Si vous regardez certains des critères, ils sont un peu volumineux et si votre objectif est réellement ciblé sur certaines familles à faible revenu, comment pourront-elles répondre à certains critères?
J'ai visité le site web qu'on m'a donné et j'ai vu la liste des critères qui sont énumérés pour pouvoir obtenir ce prêt et à partir de ces critères, je peux vous dire catégoriquement que ce prêt n'est qu'une démagogie. Il n'est pas destiné aux populations ordinaires, ce n'est pas destiné aux jeunes ordinaires.
Un autre point de débat est que le prêt est réservé seulement aux étudiants des universités publiques et non aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés. Goodness Abba, étudiante en droit public.
Eh bien, l'initiative vient d'être lancée et je crois que le gouvernement trouvera des moyens de la rendre plus inclusive. Alors peut-être qu'il y a un ou deux problèmes pour lesquels ils estiment qu'elle devrait commencer par les universités publiques, car les universités publiques ont en réalité plus d'étudiants et plus de personnes continuent de postuler pour avoir accès que les universités privées. Alors peut-être qu'ils veulent d'abord atteindre ce nombre de jeunes avant de l'élargir.
Le président a approuvé 35 milliards de naira pour le lancement du programme ciblant 70 000 candidats pour un début. Selon les statistiques, il y a plus de 100 000 étudiants dans les universités privées contre plus de 2 500 000 dans les universités publiques, ce qui indique que le secteur privé représente moins de 6% de la population étudiantine au Nigeria. Pendant des décennies, les frais de scolarité ont été maintenus à un niveau peu élevé pour encourager les inscriptions dans un pays où beaucoup sont pauvres et où le taux d'analphabétisme est très élevé. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
La région du bassin du lac Tchad subit depuis plusieurs années des attaques terroristes du groupe Boko Haram et les effets du changement climatique qui assèche le lac. Alors que le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, vient d'annoncer une nouvelle phase de son programme de stabilisation dans la région, Mamadou Mfa a interrogé Aminu Mal Hadji sur les pistes de solutions pour soulager les populations de cette région. Il est le président du conseil d'administration de l'IRES, l'Institut Rumsiki d'études stratégiques.
La région du bassin du lac Tchad, c'est une vaste zone géographique située au cœur de l'Afrique, en particulier en Afrique centrale, englobant des parties du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Ce bassin couvre en fait une superficie de l'ordre de 2,3 millions de kilomètres carrés et abrite dans les 50 millions d'individus. Et historiquement, le lac, autrefois l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde, a été le centre vital de la région, fournissant de l'eau pour l'agriculture, pour la pêche et l'élevage.
Cette région a subi, évidemment, et continue d'ailleurs de subir, les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que ces attaques, que cette insécurité causée par le terrorisme a eu sur la région du bassin du lac Tchad?
La région est vraiment dramatiquement affectée par des défis sécuritaires, notamment avec la présence de ces groupes armés tels que Boko Haram, qui ont déstabilisé la région, provoquant des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante. Malheureusement, cette secte est devenue l'un des groupes terroristes les plus violents en Afrique. Ces activités ont entraîné des répercussions vraiment profondes et dévastatrices dans la région du lac Tchad, affectant non seulement le Nigeria où elle est née, mais également les pays voisins tels que le Tchad, le Niger, le Cameroun. Et en somme toute, ces attaques-là nous ruinent l'économie et handicapent tout développement parce que ça affecte les écoles, par exemple, ne peuvent pas ouvrir parce que des attaques peuvent arriver, les routes peuvent être bloquées, limitant le commerce. Et ensuite, les enlèvements pénalisent les familles. Donc, c'est une catastrophe qu'il faut à tout prix combattre et éliminer.
Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vient d'annoncer le lancement de la nouvelle phase de son programme de mécanisme de stabilisation régionale qui se déroulera de septembre 2024 à août 2028. Selon vous, quelles devraient être les priorités de ce programme pour qu'il soit véritablement utile à la région?
Les priorités, c'est les financements qui permettent, par exemple, à sécuriser tout le mouvement des populations pour être certain que ces populations ne sont pas délaissées. Et ensuite, il faut entamer tous les travaux pour les infrastructures pour être certain que ces populations ont de l'eau potable, qu'ils sont bien soignés et que les écoles sont ouvertes. Et il ne faut pas oublier pour le long terme, bien sûr, l'appel à tous ces financements pour qu'ils se réalisent, pour mettre en place tous les projets qui tournent autour de ce lac, pour lui permettre de refleurir. Ne jamais oublier que tous ces développements doivent être bien accordés avec les aspects environnementaux, c'est-à-dire, par exemple, reboiser cette région pour empêcher le désert d'avancer.
Aminu Mal Hadji de l'Institut Rumsiki d'études stratégiques. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.